Hubert Kawissa, le meurtrier présumé de la famille Troadec, parle d'une pulsion soudaine la nuit du drame. Hubert Kawissa a décapité, démembré et découpé les quatre corps de sa propre famille pour en brûler une grande partie dans la chaudière à bois de sa ferme et ensuite se séparer du reste en le jetant par dizaines de morceaux dans la nature en espérant que les renards et les oiseaux fassent leur ouvrage et éliminent toute trace.
Bonsoir, de l'or pour un massacre. La quête d'un trésor caché est-elle à l'origine de l'extermination de toute une famille? Il y a 4 ans, les Troadec, les parents et leurs deux enfants disparaissaient de leur pavillon de la banlieue de Nantes. Des fragments de leur corps seront retrouvés quelques semaines plus tard à 250 km de chez eux. Une folie meurtrière animée par une haine féroce, ressassée depuis trop longtemps par un certain Hubert Kawissin, le beau-frère de la famille, accusé principal de cette tuerie. Il avancera comme mobile de ce quadruple crime, la jalousie, la haine et le fantasme d'un pactole convoité de lingots et de pièces d'or. Hubert Kawissin et son ex-compagne Lydie, la sœur de l'une des victimes, seront jugés dans 3 mois devant la cour d'assises de Loire-Atlantique, l'occasion pour la justice, espérons-le, de lever les derniers mystères qui entourent cette mécanique destructrice. C'est cette affaire donc, l'affaire Troadec, que nous allons retracer ce soir avec nos invités. Ensemble, nous allons tenter de répondre aux questions qui vont se poser aux jurés de la cour d'assises. Pourquoi Hubert Kawissin a-t-il en quelques minutes anéanti mari, femme et enfant? Quel est le secret de famille qui hantait les uns et les autres au point d'entraîner l'irréparable, un tragique bain de sang?
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir dans l'heure du crime, l'affaire Troadec. À l'hiver 2017, plus aucun membre de cette famille discrète qui habite Orvault, une commune au nord de Nantes, ne donne signe de vie. En ce mois de février 2017, Martine, la sœur de Brigitte Troadec, s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles. Martine habite le Finistère, à Landerneau, à 250 km de Nantes, là où vit Brigitte. La dernière fois qu'elle l'a eue au téléphone, c'était le 16 février. Tout allait bien, depuis, plus rien. Martine s'inquiète, hésite, puis décide d'alerter la police. Le 23 février, une patrouille se rend ainsi au numéro 24 de la rue d'Auteuil, une rue tranquille d'Orvault, commune limitrophe de Nantes. Les volets du pavillon blanc sont clos. La maison est déserte, aucun des occupants n'est présent. Il fait 8 degrés à l'intérieur et le chauffage est coupé. Dans les chambres, aucun drap ne recouvre les lits, le linge qui sèche dans le jardin n'a pas été ramassé, la vaisselle n'a pas été faite et dans le réfrigérateur, des sushis commandés le 16 février avant midi n'ont pas été consommés. Les brosses à dents manquent également dans la salle de bain. Autant d'indices qui semblent correspondre à un départ précipité ou à un drame. Il y a de nombreuses traces de sang dans la demeure, au rez-de-chaussée, à l'étage et dans l'escalier. Elles ont parfois été maladroitement essuyées. 4 personnes manquent à l'appel. Pascal Troadec, son épouse Brigitte, 49 ans tous les deux, et leurs enfants, Sébastien, 21 ans, et Charlotte, 18 ans. La police scientifique est rapidement à pied d'œuvre. Elle examine de près un téléphone portable, celui de Sébastien, le fils. Un appareil maculé de sang, le seul présent. Tous les autres téléphones ont été emportés, ainsi que les ordinateurs. Il ne reste sur place que les câbles. Les expertises ADN établissent que les traces de sang retrouvées sur place correspondent à celles des parents et du fils. Pour le moment, pas de traces de sang de Charlotte, la fille. Aucune arme n'est retrouvée dans la maison. Les voitures des parents, une Audi A4 et une BMW, sont stationnées dans la rue. Elles n'ont pas bougé. Il manque seulement à l'appel la Peugeot 308 de Sébastien. Impossible alors de ne pas songer à l'affaire du pont de Ligonnès, à Nantes, 6 ans auparavant. La tuerie de toute une famille, découverte tardivement. Le procureur Pierre Senès confirme que les Troadec sont introuvables, ils ont disparu. Le magistrat précise cependant qu'on peut presque parler de scène de crime. Des personnes, dit-il, ont perdu beaucoup de sang, des blessures qui doivent être très graves et qui ont sans doute entraîné la mort de certains des protagonistes. Les Troadec ne vivaient pas sous la menace. Pascal travaillait dans une fabrique d'enseignes lumineuses, son épouse au trésor public. Des enfants normalement scolarisés, il est établi que leurs téléphones se sont éteints les uns après les autres. Dans la nuit du 16 au 17 février, celui de Sébastien a été le dernier coupé à 3h12 du matin. Bonsoir Olivier Bois.
Bonsoir Jean-Alphonse, bonsoir à tous.
Merci de vous retrouver ce soir dans le studio de l'heure du crime, studio que vous connaissez bien puisque vous êtes journaliste à RTL et on vous entend beaucoup dans la présentation des journaux sur cette antenne. À l'époque, vous avez couvert cette affaire, ce dossier, cette scène de disparition et même de crime, comme le pressent le procureur de Nantes. Que peut-on en dire? Elle est à la fois effrayante et maladroite, c'est ça?
Oui, c'est ça. Vous l'avez dit, elle est surtout, elle donne l'impression d'une maison complètement figée. Vous avez donné quelques détails, les sushis périmés dans le frigo, mais de quelques jours. Il y a du linge encore mouillé dans le tambour de la machine. Et donc, on a cette maison qui est totalement figée. Et effectivement, des traces de sang qui apparaissent, même visuellement, on voit des traces de sang qui ont été mal effacées. Visiblement, quelqu'un a fait le ménage, mais de manière trop rapide. Et il y a des traces de sang. Et dès le début de l'enquête, en fait, les policiers, les enquêteurs vont trouver des traces de sang beaucoup plus importantes. Et c'est ce qui fait dire au procureur tout de suite qu'il y a cette maison est une scène de crime, qu'il y a beaucoup de sang qui a coulé, des gens qui ont perdu beaucoup de sang et qui sont probablement même morts de leurs blessures. C'est ce qu'indique le procureur à l'époque très rapidement.
On pressent le pire, Olivier.
Oui,
c'est ça.
Tout de suite, on pressent le pire. Même si au début, ils comprennent pas grand-chose. Vous l'avez dit, l'affaire du pont de Ligonnès à Nantes et en Loire-Atlantique, tout le monde la connaît. Donc il y a une famille qui disparaît, ça paraît complètement mystérieux. Il n'y a aucun mobile. Comme d'habitude, on entend famille des plus tranquilles. Alors on va voir le mari, dont on dit qu'il est parfois un peu colérique. La mère qu'on décrit plutôt discrète. On commence à évoquer le fils qui est à la fois décrit comme un étudiant sans histoire de BTS, à la fois avec une deuxième identité numérique, un peu plus mystérieuse, etc.
Mais ça, c'est l'enquête de voisinage assez classique, finalement.
Classique.
On va essayer de savoir qui sont les protagonistes.
Exactement. Mais surtout, bon, même s'il y a des traces de sang, on trouve aucun corps, une maison complètement fermée. Donc au début, c'est quand même une affaire tout de suite vécue comme hors norme et complètement mystérieuse.
Bonsoir, maître Cécile de Oliveira.
Bonsoir.
Vous êtes l'avocate des deux sœurs et de la mère de Brigitte, l'épouse de Pascal Troidec. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir l'invitation de l'heure du crime. Est-ce que tout de suite, à l'époque, maître de Oliveira, vos clientes se disent que quelque chose de grave vient d'arriver?
Martine, la sœur de Brigitte, s'inquiète dès le début parce qu'il y a des rituels d'appel téléphonique dans la famille, notamment le dimanche soir, et que dans cette famille très liée, jamais Brigitte n'oublie d'appeler sa mère le dimanche soir. Donc le déclenchement, c'est d'abord le silence de Brigitte un dimanche, et puis c'est ensuite les appels des sœurs de Brigitte sur les portables, sur le fixe, et puis après, sur les portables des enfants. Et là, Martine comprend, et sa sœur Hélène, que c'est extrêmement grave.
Alors c'est extrêmement grave, évidemment, et on le pressent, c'est ce que vous nous disiez, Olivier Bois. Alors justement, ce couple, Pascal et Brigitte Troidec, qui sont-ils?
C'est un couple qui vit donc dans une petite ville qui est juste à l'extérieur de Nantes. Vous avez dit que les deux travaillaient, ils vivent plutôt confortablement, aucun problème en tout cas financier. Ils ont deux enfants qui font des études. La jeune Charlotte, elle est au lycée en Vendée, son frère est en BTS, ils ont deux ou trois ans d'écart. Donc vraiment, c'est une famille comme ça, sans histoire. On interroge les collègues. On les décrit, encore une fois, le plus tranquillement du monde. Une collègue de travail et une famille heureuse qui part en vacances. Après, au fil de l'enquête, on découvre, mais peut-être comme on pourrait découvrir dans n'importe quelle famille, qu'il y a des tensions, qu'il y a le frère qui explique que parfois son papa râle un peu, quelques rumeurs d'alcool, etc. Mais vraiment...
Oui, c'est tous les secrets de famille. Oui. Toutes les familles ont des petits secrets comme ça.
On ne découvre pas, en tout cas, une histoire qui pourrait expliquer un tel potentiel drame dans les premiers jours et premières heures d'enquête, en tout cas.
Parce que ça, c'est important, Olivier Bois. Il n'y a pas de menace particulière sur cette famille. On ne leur connaît pas d'ennemis jurés comme ça, déclarés.
Ni à l'un ni à l'autre, à tel point que, au départ, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, la première piste est d'aller voir du côté du fils, dont on découvre qu'effectivement, il a...
On va en parler d'ailleurs.
Identité numérique, mais par ailleurs, aucun autre
on
signe
va y venir
à l'extérieur de cette famille.
À ses premières suspicions, évidemment. Encore un mot, Olivier Bois, évidemment, et c'est une affaire que vous connaissez également, il y a le spectre de l'affaire du pont de Ligonnès, là, qui d'un seul coup surgit à cette époque.
À tout de suite. Hein, le procureur, les policiers, tout de suite, pensent à l'affaire du pont de Ligonnès. On commence à aller voir même dans les jardins des maisons à côté qui sont vides pour voir si c'est pas...
Si les corps n'ont pas été enterrés.
Si les corps ne sont pas là, puisque dans l'affaire, en l'occurrence, du pont de Ligonnès, le tueur, Xavier Dupont de Ligonnès, avait enterré toute sa famille sous la terrasse. Donc, tout de suite, les enquêteurs ont...
Il y a une ressemblance troublante.
Voilà, il y a le spectre, une famille nantaise, visiblement sans histoire, des parents, deux enfants, et donc tout de suite, tout le monde l'a en tête.
Tout le monde a en tête l'affaire du pont de Ligonnès, mais dès le début, les enquêteurs s'intéressent de près à une piste, celle du fils de la famille Sébastien. Sa voiture est absente et cet étudiant en BTS n'entretiendrait pas de très bons rapports avec son père. Dès le 24 février, au lendemain de la découverte de la maison vide de la rue d'Auteuil, les policiers diffusent une fiche de recherche concernant Sébastien, le fils de la famille, étudiant en système numérique au lycée Saint-Gabriel de Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée. Il pourrait être impliqué dans cette disparition. Sa personnalité est alors présentée comme tourmentée. Il avait une fois annoncé dans un blog qu'il se rendrait dans son école pour y tuer tout le monde à l'époque. La police alertée avait conclu à une provocation d'adolescent, une annonce de mauvais goût. Sa voiture est absente. Son téléphone a été le dernier coupé. Sébastien Troadec serait-il derrière cette série d'absences? Il serait en froid avec son père. Dans un tweet, n'avait-il pas écrit « De 20h à 2h du mat, mon père gueulait, j'arrêtais pas de lui dire de fermer sa gueule. » Simple spéculation, ceux qui connaissent bien le jeune garçon ne croient pas une seconde qu'il fasse de mal à qui que ce soit. Mercredi 1er mars, 6 jours après le démarrage de l'enquête, et alors que les investigations demeurent concentrées sur la maison d'Orvault, un indice refait surface à 300 km de Nantes, sur le territoire de la localité de Dirinon, dans le Finistère. Il s'agit d'un pantalon, un jean gris, retrouvé par une joggeuse dans un fossé, dans une poche. La carte vitale de Charlotte Troadec, sa carte bancaire et une carte de fidélité d'un grand magasin. Jeudi 2 mars, un ancien livre scolaire qui ressemble à un album de bande dessinée est découvert dans le même périmètre. Il porte une étiquette au nom de Pascal Troadec, le père de famille, au temps où il était en classe de 4e. Ce coin de campagne, isolé et boisé, est à quelques kilomètres seulement de Landerneau, le berceau de la famille Troadec. Et à nouveau, jeudi 2 mars, la voiture de Sébastien est signalée à Saint-Nazaire, à 55 km d'Orvault. Les Troadec n'ont aucune attache particulière dans cette ville. Le véhicule, une Peugeot 308, était stationné normalement sur un parking au centre-ville. Il apparaît que la Peugeot a été nettoyée. Il manque le tapis de coffre. Des traces de sang sont retrouvées. Une centaine de policiers sont mobilisés dans cette enquête. En l'absence de corps et de témoignages capitaux, le procureur n'exclut aucune piste. Il fait savoir que tous les scénarios sont envisageables. Il n'exclut pas une sinistre mise en scène pour semer le désordre dans les esprits. Il n'est pas impossible que quelqu'un se livre à un jeu morbide pour balader les enquêteurs, dit alors le magistrat. Olivier Bois, journaliste à RTL, et vous avez couvert toute cette affaire pour notre station à l'époque. Alors, c'est un petit peu un sordide petit poussé là, qui sévit, tous ces indices qui se multiplient. Qu'est-ce qu'on en dit à l'époque? C'est déjà très surprenant. Il y a une course...
À l'époque, on est un peu... C'est la semaine vraiment où personne ne comprend plus rien à ce crime. Parce qu'effectivement, la voiture du fils manque, c'est lui qui a passé, c'est lui dont le téléphone a été éteint en dernier. Et puis on retrouve sur 2 jours de suite donc des indices comme le petit poussé, effectivement, ce pantalon, cette carte vitale, le lendemain cette bande dessinée. Et là, on a l'impression, vu de l'extérieur, on ne sait pas exactement ce que pensent les enquêteurs à ce moment-là, mais on a l'impression d'un flou total. Plus personne ne comprend rien à cette enquête. Et même le procureur évoque cette hypothèse de quelqu'un qui s'amuserait,
un jeu de piste
absolument macabre, qui s'amuserait à regarder de l'extérieur. Les policiers se perdent en hypothèse entre ces affaires et la voiture qui est retrouvée 250 km plus près de Nantes, en l'occurrence à Saint-Nazaire, avec visiblement aucun lien entre les trois, puisqu'on a une maison en Orvault, Saint-Nazaire, la Bretagne.
Sauf que dans Bretagne, en Finistère, c'est un petit peu ce que j'ai dit très brièvement, c'est le berceau familial. Là.
C'est ça,
on n'est pas loin de
là où toute
la maison de famille.
Oui, de la maison familiale.
Ouais.
Donc là, on commence à avoir un début d'histoire familiale, mais comme ils sont quand même partis sur l'hypothèse familiale, donc oui, il y a un lien avec le berceau de la famille Troadec, mais alors pour le moment, personne ne fait la connexion entre toutes ces découvertes et entre surtout le côté barbare du crime qui, pour le coup, commence vraiment à se dessiner au bout de quelques jours, puisque il y a eu confirmation des traces de sang et du sang très important retrouvé dans la maison, qui fait tout de suite penser vraiment à une scène,
un massacre.
Et en l'occurrence, on sait aussi assez rapidement, les enquêteurs, en tout cas, qu'il y a le sang du fils. Donc là, pour le coup, ça fait une inconnue en plus.
Il y a le sang du fils, et puis je rajoute, Olivier, c'est qu'il y a aussi du sang dans la voiture, dans la Peugeot 308.
Qui a été, elle aussi, complètement nettoyée. Le tapis de sol a été enlevé, etc. Mais là encore, grâce aux techniques modernes, des traces de sang sont là. Donc en fait, dans cette histoire, il y a du sang partout. En plus des affaires personnelles de la plus jeune fille de la famille avec sa carte vitale. Donc vraiment, ça commence à ressembler à un côté glaçant quoi, dans ce crime.
Alors, il y a un côté glaçant. Est-ce qu'on privilégie... Alors, il y avait la piste du fils, qui peut d'ailleurs toujours exister même à ce moment-là de l'enquête, puisque finalement on a retrouvé personne, et c'est pas parce qu'on se retrouve sa voiture qu'il serait hors jeu, si je puis dire. Donc les policiers continuent à travailler cette piste, ils y tiennent beaucoup au début.
Ils n'excluent rien, mais on a quand même l'impression que personne ne comprend comment le fils aurait pu faire ça tout seul à ce moment-là. Donc c'est la piste est étudiée parce qu'il y a les éléments un petit peu flagrants, ce téléphone et cette voiture, mais honnêtement, on a l'impression que directement le procureur dit toutes les autres pistes sont quand même à l'étude et c'est loin d'être la seule et cette affaire est loin d'être réglée. Donc, moi, je me rappelle d'un sentiment que sur cette piste-là, ça freine au bout de quelques jours, assez rapidement, quand on a parfois les gens au téléphone en disant on commence à c'est pas une évidence quoi.
Qui plus est, je crois que le procureur à l'époque à Nantes, Pierre Senès, il s'interroge aussi si ce sont des crimes, si des gens sont morts, ce qu'il pense avec le sang qui est retrouvé. D'après lui, il y a plusieurs personnes qui auraient pu participer à ce massacre parce qu'il aurait fallu sortir les corps, etc. Tuer tout le monde.
C'est ça. Tu es quatre personnes à deux étages différents. Ils retrouvent des traces parce que effectivement, quand on parle de côté macabre, ils retrouvent les traces de sang comme si les corps avaient été traînés de là-haut par l'escalier. On en retrouve dans le garage, etc. Donc, ils voient bien très vite le scénario de cette famille en tout cas plusieurs personnes qui auraient été tuées et ensuite dissimulées dans un coffre ou transportées au garage pour être ensuite évacuées quelque part ou en tout cas pour les faire disparaître. Donc tout ça, ça paraît être une œuvre colossale, quoi, quelque part.
Une œuvre colossale. Alors, deux points. On résume un petit peu. Le sentiment qui prévaut, c'est tout de même une piste familiale, on peut le dire, entre guillemets.
Hein, oui.
C'est pas un rôdeur, c'est pas un cambriolage.
Vous l'avez dit, Jean-Alphonse, rien n'a été volé. Parce que ça, effectivement, on ne l'a pas dit pour l'instant. Quand on cherche un mobile, on cherche s'il y a eu un cambriolage. Ça n'est pas le cas. Il y a des détails où les brosses à dents disparaissent, etc. Il n'y a aucun autre mobile qui apparaît qu'une piste familiale, puisqu'encore une fois, dans l'entourage professionnel, dans l'entourage amical, il n'y a aucune piste qui se dégage. Donc les enquêteurs déjà travaillent sur cette piste-là et on va voir qu'effectivement, c'est quand même cette piste qui va donner dans le travail des enquêteurs.
Piste qui va donner et qui va prévaloir. Et puis, toutes ces traces de sang, elles vont parler et on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de choses qui vont être intéressantes à retrouver. La police scientifique va vite. Hein.
Exactement, dans les traces de sang, on retrouve directement l'ADN des parents, l'ADN du fils et un peu plus tard l'ADN de la fille Charlotte. Mais dans un premier temps, il n'y a aucune trace de Charlotte. Donc ça, quand on parlait du côté mystérieux de cette enquête, au début, on retrouve les ADN de tout le monde sauf de la fille Charlotte, y compris dans les traces de sang. Donc ça fait un autre aspect mystérieux de cette affaire-là. Qui sera élucidé plus tard. Et puis, il y a une trace ADN qui va être retrouvée. C'est ça qui va être déterminant pour l'enquête. Une trace ADN qui va être retrouvée, justement, du suspect principal.
Et effectivement, malgré l'épais mystère qui entoure la disparition des trois Adec, l'enquête va rapidement faire un grand pas en avant. Deux interpellations vont lever le voile sur l'affaire et faire apparaître un incroyable scénario. Le dimanche 5 mars, Hubert Caouissin, le beau-frère de Pascal Troadec et sa compagne Lydie Troadec, la sœur du père de famille disparu, sont placés en garde à vue à l'hôtel de police de Nantes. Le couple avait déjà été entendu pendant près de 21 heures, tout au début de l'affaire. Hubert Caouissin n'avait pas cherché à cacher son peu d'estime pour son beau-frère. Il avait assuré qu'il ne l'avait pas vu depuis longtemps, indiquant être fâché avec cette partie de la famille, une brouille causée par une sombre histoire d'argent et d'héritage. Le couple avait été relâché. Cette fois, l'ADN a parlé. Des traces génétiques d'Hubert Caouissin dans la maison d'Orvault sur un verre dans l'évier de la cuisine et dans la voiture de Sébastien ont été relevées. Pressé de questions, le beau-frère, 46 ans, finit cette fois par avouer. Il a tué, seul, tous les membres de la famille. Il décrit alors un sordide scénario. Il aurait fait disparaître les corps en les découpant et en les disséminant dans sa propriété. Le mobile du quadruple crime est une intense haine pour le couple Troadec. Un couple qui aurait détourné un trésor familial sous forme de lingots et de pièces d'or. Pascal Troadec se serait ainsi enrichi sans partager quoi que ce soit avec le reste de sa famille. Après 10 jours d'enquête intensive, le terrifiant scénario prend forme, celui d'une disparition qui cache en fait un massacre. Hubert Caouissin et Lydie Troadec, celle-ci nie toute participation au crime. Son ADN n'apparaît d'ailleurs ni dans le pavillon ni dans la voiture. Le couple est déféré au palais de justice, mis en examen et écroué. Après 3 jours de prison, Hubert Caouissin est conduit dans la ferme qu'il exploite dans le Finistère, la ferme du Stang à Pont-de-Buis, une propriété isolée dans un terrain marécageux, accidenté, broussailleux et mal entretenu. C'est là qu'il aurait démembré les corps avant d'en brûler une partie dans une chaudière et ensevelir les restes dans la nature avoisinante. Mercredi 8 mars, les enquêteurs annoncent ainsi la découverte de fragments de corps ainsi que des bijoux appartenant aux Troadec. Un légiste, un anthropologue, des CRS, 14 enquêteurs et 10 techniciens de police scientifique sont à pied d'œuvre. Le chef de la PJ de Nantes, Jean-René Personnic, affirme que les recherches vont prendre beaucoup de temps. Hubert Caouissin, amené sur place et vêtu d'un gilet pare-balles, se montre alors parfaitement coopératif. Olivier Bois, ce soir l'un de nos invités dans l'heure du crime, journaliste à RTL, et vous avez couvert cette affaire de A à Z à l'époque. Dressez-nous un petit peu le portrait de cet Hubert Caouissin qui devient désormais le témoin, plus que le témoin, le suspect numéro un.
Hubert Caouissin, donc effectivement, les enquêteurs, vous venez de le dire, il a été placé en garde à vue assez rapidement en fait dans cette affaire, parce que quand on parlait de mobile, la seule chose qui sort un peu de cette histoire, c'est qu'effectivement les deux familles ne s'entendaient pas. Donc quand on parle d'ennemis potentiels, le reste de l'entourage dit qu'effectivement les deux familles ne s'entendent pas. Donc Hubert Caouissin, il est décrit comme un homme colérique lui aussi par certains endroits, surtout il est décrit comme ayant cette tension avec son beau-frère qui date depuis des années, dès le début des relations entre les deux familles. Les repas de famille se sont toujours mal passés, ça finit toujours par se disputer et c'est toujours l'argent qui revient.
C'est ça.
Certains vont dire que c'est Hubert Caouissin qui est jaloux de son beau-frère. Certains disent que c'est l'inverse. Oui. En tout cas, il parle a priori tout le temps d'argent.
En tout cas, il y a un nœud de friction là qui se passe entre les deux hommes. Ça marche pas.
Hein, oui. Et la famille Troadec est partie vivre à Orvault et le reste de la famille effectivement est resté plutôt en Bretagne. Et la mère de Pascal Troadec, elle est devenue plus proche de la partie familiale qui est restée en Bretagne, donc elle prend toujours la défense du beau-frère Caouissin par rapport à son fils. Donc c'est un climat vraiment tendu dans cette famille entre le frère et la sœur et les époux respectifs. Quoi.
Bonsoir maître Thierry Fillon.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir l'invité de l'heure du crime. Vous êtes l'avocat de Hubert Caouissin. Je le disais brièvement dans ce récit, votre client Hubert Caouissin, il ne fait pas de difficultés, il reconnaît très vite les faits, puis ensuite il va coopérer avec la police. Pourquoi est-il dans cet état d'esprit ? C'est finalement une série de crimes qui le dépasse à ce moment-là ou il est pris au piège ?
Alors, je suis l'avocat d'Hubert Caouissin depuis 4 ans maintenant. Je le dis pour cela en compagnie de mon confrère et ami brestois, Patrick Larvor.
Tout à fait.
Pour répondre à votre question, je crois que si Hubert Caouissin, depuis la première garde à vue, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, il n'a jamais caché la mésentente qu'il avait avec son beau-frère, s'il a pris cette position de dire les choses, c'est parce qu'en fait, il n'avait rien à cacher. Dans la mesure où il n'était pas celui qui était présenté comme l'auteur d'un crime atroce. C'est un crime atroce, mais c'est un crime qu'il ne voulait pas, en réalité.
On va progresser, effectivement, dans cette affaire, et puis il va avoir une explication. On va y venir, d'ailleurs, à ces explications. Effectivement, lui ne dit qu'il n'y avait pas de volonté de sa part de tuer. Est-ce que vous avez le sentiment que, dès lors qu'il est démasqué, découvert, il y a une espèce de soulagement chez lui ou pas du tout ?
Je ne parlerai pas de soulagement, je pense que c'est une forme de... Il s'adapte à la réalité. Je ne suis pas certain qu'il ait cru à un quelconque moment qu'il pourrait échapper aux recherches qui avaient été déclenchées. Évidemment, je n'ai jamais été dans sa tête, donc c'est difficile de répondre à cette question. Mais je pense qu'il s'est adapté simplement à la situation de son interpellation, du fait que effectivement l'ADN avait parlé et que c'était lui qui était dans cette maison et qui était le responsable de ces 4 morts. Et à partir de ce moment-là, il a, de manière extrêmement précise et détaillée, accepté de raconter ce qui s'était passé depuis le début.
Maître Cécile de Oliveira, vous êtes également notre invité ce soir dans l'heure du crime. Vous êtes l'avocat des parties civiles, des deux sœurs et de la mère de Brigitte Troadec. Est-ce que vos clientes ont soupçonné tout de suite Hubert Caouissin dans cette affaire ?
Au départ, il y a d'abord un grand mystère, une grande angoisse. Et puis rapidement, les sœurs de Brigitte vont penser que la seule personne qui soit étrange dans les connaissances plutôt lointaines de Brigitte et Pascal Troadec, c'est Hubert. Et elles vont faire part rapidement aux enquêteurs. Elles savent que leur sœur Brigitte, qui s'est confiée auprès d'elles, a été terrorisée par le fait qu'Hubert ait fait une fois 300 km du Finistère jusqu'à Orvault pour venir un jour où les parents étaient absents jusqu'à la maison de la famille. Et elles ont le souvenir d'une scène très violente aussi dans le Finistère où Hubert a accusé de façon délirante Pascal d'avoir volé de l'or. Et elles ont le sentiment que quand Brigitte leur a confié ces scènes tout à fait absurdes et violentes, Brigitte était réellement stressée. C'est la seule personne étrange dont Brigitte leur a parlé.
Quelle est la réaction, maître, de vos clientes quand Hubert Caouissin passe aux aveux ?
Alors, quand Hubert passe aux aveux, une fois qu'on lui a mis l'ADN trouvé dans la maison d'Orvault sous le nez, elles sont évidemment à la fois soulagées que les personnes qui sont mises en cause dans ce terrible quadruple meurtre soient interpellées et évidemment incarcérées, mais elles sont évidemment terrifiées du scénario qui a dû se mettre en place.
Bien sûr, un scénario qui est tout à fait glaçant. Olivier Bois, dans cette ferme du Stang, la ferme de l'horreur à Pont-de-Buis, là, c'est effarant ce scénario. On va trouver des micro-morceaux de cadavres un petit peu partout.
Oui, c'est la, dans la deuxième partie, effectivement, parce que Hubert Caouissin va tout dire en fait aux enquêteurs, tel que lui raconte l'histoire. Il raconte comment il a fait plusieurs allers-retours pour aller à Nantes, pour transporter les corps. Et après, c'est même difficile à décrire, tellement c'est horrible le côté disparition des corps. Il les découpe à la scie, il tente de les faire brûler. Effectivement, il compte, tout à l'heure, on entendait un papier de RTL à l'époque sur la nature Patrice Gabart pour faire disparaître une partie des corps. C'est encore une fois terrifiant. Effectivement, c'est glaçant les détails pour le côté macabre de ce massacre-là.
Dans toute cette affaire, l'argent, la jalousie, le désir de vengeance semblent constituer le mobile du massacre. Une histoire de lingots d'or qui aurait obsédé et rendu fou Hubert Caouissin au point de tuer 4 personnes. Pour expliquer son geste barbare, Hubert Caouissin raconte une rocambolesque histoire de lingots et de pièces d'or. Ce trésor, mis à l'abri pendant la guerre dans la maison des Troadec, aurait refait surface lors de travaux en 2006. Un trésor alors caché par le patriarche de la famille, Pierre Troadec, dans un endroit tenu secret. À sa mort, 3 ans plus tard, Pascal Troadec aurait appris où se trouvait le pactole, évalué selon la rumeur à des centaines de milliers, voire des millions d'euros. Il aurait fait main basse sur ce tas d'or sans le partager. Le tout aurait été placé dans des banques à l'étranger, même si cette histoire ne repose que sur des récits entendus dans le cercle familial. Hubert Caouissin ne digère pas l'attitude de son beau-frère. Il dit avoir été obsédé par ce vol au point de s'enfermer dans le tourment, de ressasser sa haine contre les profiteurs, le couple Troadec, Pascal et Brigitte, une famille riche qui voyage et se paye des voitures neuves. Caouissin, dit-il, voulait réparer cette injustice. Comme il va le raconter au juge d'instruction, Hubert Caouissin voulait se venger, mais sans intention de tuer toute la famille. Il aurait décidé d'aller fouiller la maison, dérober les ordinateurs, voler certains documents, afin de dénoncer les Troadec à l'administration fiscale, plus précisément auprès du Tracfin, un organisme qui traque l'argent sale. Il aurait, pour cela, reconnu plusieurs fois les lieux. Le 16 février 2017, au soir, il serait rentré par une baie vitrée laissée entrouverte pour que le chat de la maison puisse passer, muni d'un stéthoscope pour éventuellement sonder les cloisons. Caouissin se serait caché dans la buanderie au rez-de-chaussée, puis aurait été surpris par Pascal et Sébastien Troadec. Une bagarre aurait alors éclaté. Dans la mêlée, Caouissin se serait emparé d'un pied de biche, frappé le père et le fils, puis la fille Charlotte, un seul coup mortel sur le crâne. Et enfin Brigitte, l'épouse, accourue sur place qui aurait brièvement réussi à s'emparer du pied de biche avant de succomber à son tour. Lors de ses aveux en garde à vue et dans le bureau des juges, Hubert Caouissin va pleurer à plusieurs reprises. C'est pourtant très méthodiquement et avec une grande froideur qu'il découpera pendant plusieurs jours les corps de ses victimes, un travail de boucherie, alors que sa compagne Lydie s'occupait de leur fils de 8 ans, un petit garçon témoin malgré lui de ce crime épouvantable. Maître Thierry Fillon, vous êtes l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime. Je rappelle que vous êtes avec un de vos confrères, l'avocat de Hubert Caouissin dans cette histoire. Cette affaire de trésor d'or, ça paraît comme ça un vrai roman, mais c'est l'explication à laquelle se tient absolument votre client encore aujourd'hui pour expliquer son geste.
C'était en tout cas sa croyance, qui n'était pas une croyance personnelle d'ailleurs, puisque c'était également manifestement la croyance de sa belle-mère, Renée Troadec, partagée sans doute avec sa femme Lydie. C'est donc une croyance à plusieurs personnes qui remontait à plusieurs années et qui avait causé, 3 ans plus tôt, la fâcherie, notamment entre Renée Troadec et son fils Pascal.
C'est ça, oui. Et c'est une histoire, on peut le dire comme ça, Maître Fillon, ou détrompez-moi si je suis un petit peu excessif, mais c'est une histoire qui l'a complètement rongé, votre client, cette obsession de retrouver ce trésor.
C'est une histoire qui a fini par l'envahir complètement. Cet or semble ne pas avoir existé, en tout cas l'enquête et l'instruction n'ont pas permis de le démontrer. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, je pense, c'est que Hubert Caouissin, il croyait dur comme fer. Il pensait que ça avait existé et qu'effectivement, il y avait cette spoliation familiale.
Et qu'est-ce qu'il vous dit aujourd'hui? Que finalement, il s'est trompé?
Je crois qu'il ne sait plus. Je crois que d'abord, il a fait des progrès par rapport à ce que les experts ont constaté, parce que c'était un volet extrêmement important, évidemment, du dossier. C'est le volet psychiatrique et psychologique, avec ce qui a été conclu par les experts, à savoir un vécu paranoïaque et délirant de la part d'Hubert Caouissin autour de cette histoire de spoliation, mais autour aussi des craintes qu'il en avait à propos de sa propre sécurité, et celle de sa femme et surtout d'ailleurs de la sécurité de son fils.
Il a fait ça effectivement pour finalement mettre en règle sa famille, c'est ça ?
Oui, il était envahi par cette histoire qui, dans une période très très difficile pour lui sur le plan personnel, une période de dépression, de burn-out, de problèmes physiques aussi assez importants, dont il ne s'est pas sorti. Et sur le plan psychique, il a été totalement envahi par ça et par la crainte pour sa vie et celle de sa famille. Effectivement, c'est la position qu'il a exprimée depuis le début de cette affaire.
Maître De Oliveira, je rappelle que vous êtes également en ligne ce soir dans l'heure du crime, vous êtes l'avocat des parties civiles. Ce magot comme mobile, je crois que vos clientes n'y croient pas vraiment dans cette affaire.
Mes clientes sont absolument persuadées. D'abord, elles savent que le trésor n'a jamais existé et elles savent très bien que ce n'est absolument pas le mobile de Hubert, c'est son alibi, c'est autre chose.
Oui, alors si le mobile n'est pas à mettre dans le trésor familial, alors où est-il ce mobile ?
Alors le mobile n'est pas dans le trésor familial imaginaire, le mobile est ailleurs, dans un ressort très complexe psychologique chez Hubert, qui consiste à haïr la famille de Brigitte et Pascal Troadec. Et dans le souhait, je crois, d'Hubert d'essayer de faire un crime parfait. Le mobile, il est là. Il n'est pas du tout dans une jalousie à l'égard d'un trésor dont il sait qu'il n'existe pas. La cour d'assises le démontrera, mais moi j'ai vraiment le sentiment que l'obsession d'Hubert, c'est de faire un quadruple meurtre.
Olivier Bois, ce fameux tas d'or dont on tourne autour là, depuis un moment, etc. Et c'est vraiment le mobile premier dans cette histoire. Il existe ou pas ?
Les policiers l'ont cherché en tout cas. Et effectivement, il y a même eu des policiers, des enquêteurs qui ont regardé le train de vie, qui ont comparé le train de vie de la famille Troadec, Pascal et Brigitte. Effectivement, on a parlé de voyage, des voitures, etc. Donc, il y a pu avoir une hypothèse au début que leur train de vie était légèrement supérieur à l'argent qu'ils pouvaient gagner.
Oui, il y a 2-3 voitures.
Voilà, etc. Quand on prenait le salaire du foyer. Donc, il y a eu une vraie enquête là-dessus. Il y a eu des demandes à l'étranger pour voir s'il y avait des comptes en banque, des choses comme ça. Et on n'a jamais trouvé aucune trace d'argent. Il n'y a aucun élément. Et au procès, il n'y aura aucun élément sur de l'argent en dehors qui existait. Mais effectivement, c'était devenu... Enfin, c'était devenu l'obsession d'Hubert Caouissin, quand même parler du fait qu'il les narguait quand ils partaient en vacances, qu'ils envoyaient des cartes postales. Et c'est vrai que la propre mère de Pascal Troadec était elle-même persuadée que son fils avait volé le magot. Elle aussi pensait qu'il y avait eu cet or caché dans un immeuble.
Histoire de famille.
Histoire de famille, héritée de la Seconde Guerre mondiale. Qui avait été caché là, mais personne n'a jamais vu cet or. Donc soit le grand-père aurait eu cet or à sa disposition, l'aurait caché, en ne le montrant à aucun membre de sa famille, cet argent n'aurait servi jamais à personne, et 4 ans plus tard, à sa mort, le fils aurait réussi à voler cet or, qu'encore une fois, même la mère, elle le dit, elle est persuadée, la grand-mère, elle est persuadée qu'il existe, mais elle ne l'a jamais vu. Personne n'a jamais vu cet or.
Hubert Caouissin et Lydie Troadec comparaîtront devant une cour d'assises, procès prévu au mois de juin prochain. L'occasion de déterminer les rôles de chacun et de savoir quel déclic a pu entraîner un tel massacre. Du 21 juin au 9 juillet 2021 doit se tenir à Nantes, devant la cour d'assises de Loire-Atlantique, le procès d'Hubert Caouissin et de son ex-compagne Lydie Troadec. Pour le premier, auteur principal, l'enquête n'a pas permis de démontrer qu'il avait prémédité ses crimes. Il échappe donc à l'accusation d'assassinat. Les juges l'ont toutefois renvoyé pour meurtre suivi de crime au pluriel. Incrimination qui, comme l'assassinat, peut entraîner une peine de réclusion à perpétuité. Lydie Troadec, sœur de Pascal Troadec, est-elle accusée de recel de cadavres et modification des preuves d'un crime? Les juges n'ont pas retenu sa complicité dans l'exécution des meurtres. Elle comparaîtra libre sous contrôle judiciaire. Elle encourt jusqu'à 3 ans de prison. Après toutes ces années, et en dépit des aveux circonstanciés de Hubert Caouissin, les proches des victimes restent convaincus que celui-ci n'a pas livré le scénario exact des parties civiles qui ne croient pas à la thèse d'une visite nocturne qui aurait tourné au carnage. Elles estiment que ces crimes avaient été parfaitement réfléchis, organisés et perpétrés. Les légistes disent que le meurtrier a fait un travail de quasi-professionnel, des corps découpés en tout petits morceaux, une annihilation complète, note un avocat. Les experts psychiatres et les psychologues ayant examiné Hubert Caouissin notent que l'accusé souffrait au moment des faits de paranoïa délirante, un délire de persécution, de nature d'ailleurs à altérer son discernement. Maître Thierry Fillon, l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime, et l'un des avocats de Hubert Caouissin, comment votre client aborde-t-il ce procès aux assises ?
Avec évidemment beaucoup d'angoisse. Je ne connais pas d'ailleurs d'accusé qui s'apprête à comparaître devant une cour d'assises, surtout dans un dossier aussi dramatique, aussi tragique, sans cette angoisse chevillée au corps. Après, je pense qu'effectivement, il aura la force de faire face à cette comparution pendant 3 semaines, ce qui est évidemment une épreuve qui sera une épreuve pour tout le monde, mais qui sera une épreuve également pour Hubert Caouissin.
Vous l'avez d'ailleurs évoqué il y a quelques minutes, les expertises psychiatriques concernant votre client, de nature à altérer son discernement. Est-ce que ça peut peser, ça, dans le procès qui s'annonce et dans les débats ?
Je pense que c'est de nature, effectivement, à peser de manière importante, parce que les experts, il y a plusieurs expertises, hein, expertise psychiatrique, contre-expertise psychiatrique, expertise psychologique. Les experts ont tous, peu ou prou, dit avec leur spécialité respective la même chose, c'est-à-dire cette existence d'une paranoïa délirante très importante chez Hubert Caouissin. Et donc, la conclusion avec le code pénal, c'est une altération de son discernement.
On peut s'attendre, maître, à une surprise de ce côté-là lors du procès ?
Non, je ne pense pas qu'il y aura de surprise. Je ne pense pas. Les experts n'ont pas du tout été sur le versant qui aurait été de considérer qu'Hubert Caouissin n'était pas responsable, qu'il y aurait une abolition de son discernement. Donc, il n'y aura pas de surprise dans les semaines ou au procès à ce titre-là. Ce qui a été caractérisé par les experts est évidemment essentiel pour comprendre ou essayer de comprendre en tous les cas ce qui s'est passé. Et je tiens à dire à ce sujet-là qu'il n'y a jamais eu de haine chez Hubert Caouissin, contrairement à ce qui peut être véhiculé notamment par les parties civiles. Il n'y a pas de haine chez Hubert Caouissin. C'est vraiment dans un contexte psychique extrêmement singulier que cette affaire a pris place et que par ailleurs, puisqu'il est question de froideur dans ce qui s'est passé ensuite dans le Finistère, dans le découpage des corps, les experts ont également sur ce point extrêmement bien expliqué qu'il fallait totalement dissocier ce qui s'est passé dans la région nantaise lors malheureusement de la disparition des 4 membres de la famille Troadec et ce qui se passera ensuite dans le Finistère lorsque Hubert Caouissin va faire disparaître ou tenter de faire disparaître ses corps, sans bien sûr y arriver d'ailleurs, parce que je pense que ce n'était vraiment pas la meilleure des manières de le faire.
Oui, puisqu'on a retrouvé évidemment non pas les corps, mais enfin tout suffisamment d'indices pour dire que ces personnes avaient bien été découpées à cet endroit-là. Maître Cécile d'Oliveira, vous êtes avocate de la partie civile des deux sœurs et de la mère de Brigitte Troadec. Je l'ai dit, l'enquête n'a pas permis de démontrer la préméditation pour Hubert Caouissin. Qu'est-ce qu'elles pensent vos clientes là-dessus?
Je pense, comme mes clientes, que Hubert a eu l'obsession de commettre ce quadruple meurtre et qu'il l'a préparé pendant un temps très long. Il a été obsédé, il y a consacré ses jours et ses nuits et il a évidemment, il en a fait l'œuvre de sa vie, je crois.
Comment vos clientes abordent-elles ce procès ?
Mes clientes abordent ce procès avec à la fois le soulagement que il y ait peut-être un dénouement à cette affaire judiciaire terrible et puis avec une très forte angoisse d'être confronté au discours des accusés et à une grande émotion à l'occasion de l'évocation de la mémoire de leur famille et de la famille de Brigitte. C'est un moment très fort et très difficile pour elles. Et elles pensent au chagrin de leur propre mère, qui est une dame très âgée et qui a perdu sa fille, son gendre et ses petits-enfants dans des conditions abominables.
Maître Thierry Fillon, un petit mot. On ne va pas faire un débat, évidemment, entre avocats. Et vous aurez tout le temps de le faire lors du procès aux assises. Mais un petit mot sur cette histoire de préméditation. Vous, de votre côté, c'était absolument pas préparé, ce geste, selon vous?
Absolument, c'était en aucun cas préparé. Hubert Caouissin a toujours indiqué qu'il ne s'était pas rendu ce soir-là à Orvault pour tuer cette famille. L'abandon de la préméditation par l'accusation est quand même un élément extrêmement important. Sur le plan juridique, c'est une chose, mais même sur la compréhension de l'ensemble du dossier, parce que c'est le contraire de ce que tout le monde prétend depuis le début. Tout le monde prétend depuis le début que ce geste, ces meurtres étaient prémédités. On a abandonné cette préméditation. C'est évidemment quelque chose qui reviendra dans les débats devant la Cour d'assises. C'est un élément, pour moi, essentiel.
En quoi ce procès peut être exceptionnel, selon vous ?
Les procès d'assises sont exceptionnels. C'est une réponse qui ne va pas vous satisfaire, mais c'est un dossier évidemment très très particulier, très dramatique, qui a été très médiatisé, qui l'est encore. Je crois qu'il y a plusieurs livres, plusieurs ouvrages qui sont parus, qui vont paraître, même peut-être avant le procès.
Bien sûr.
Trois semaines, c'est évidemment un temps extrêmement important. La justice se donne le temps, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est le cas devant les cours d'assises encore aujourd'hui, d'examiner un dossier de manière très détaillée. C'est évidemment quelque chose qui va être exceptionnel.
Oui.
Les procès sont exceptionnels dans le même genre, malheureusement.
Bien sûr. Maître Cécile d'Oliveira, partie civile. Alors, la même question, en quoi ce procès pourrait être exceptionnel selon vous ?
Je crois qu'on est quand même assez haut dans l'horreur et dans la complexité de l'âme humaine dans cette affaire dans laquelle un homme décide de tuer une partie de sa famille avec autant de méthodologie.
Olivier Bois, le dernier mot, ça va être effectivement un procès hors norme.
On attend de voir. Cet homme a tout reconnu très rapidement en garde à vue. Maintenant, on va voir. Il a raconté l'histoire directement. On va voir ce qu'il dit devant une cour d'assises. Donc, effectivement, c'est toujours ces moments solennels qui peuvent réserver des surprises. On verra.
Merci beaucoup, Olivier Bois, maître Cécile d'Oliveira et maître Thierry Fillon, d'avoir été ce soir les invités de cette heure du crime. L'affaire Troadec, une famille anéantie et un procès d'assises qui projettera peut-être une lumière nouvelle sur cette épouvantable tuerie. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir encore avec nous cette heure du crime.